Parole protestante sur RCF Anjou.
Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous trois actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comme chaque premier dimanche du mois, nous proposons un entretien sur la prière. Aujourd'hui, il s'agit de questions que le Seigneur pose à des personnages bibliques. Certainement nous en pose-t-il aussi et attend nos réponses. Daniel, pourriez-vous nous faire part d'une des questions que Jésus pose ?
Alors, celle qui me vient de suite en tête, Jean-Pierre, se trouve dans l'évangile de Marc. Il nous relate que Jésus, sortant de la ville de Jéricho, est interpellé par un aveugle se nommant Bartimée. Celui-ci, ayant entendu que c'était Jésus qui passait, se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors des gens essaient de le faire taire, mais il crie de plus belle. Jésus l'entend et dit « Qu'il vienne !» Alors les gens lui disent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, l'aveugle jette son manteau, se lève d'un bond et va vers Jésus. Et c'est là que Jésus lui pose une question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Ah oui, c'est étrange, ça tombait pourtant de soi, il voulait retrouver la vue, non ?
Oui, Jean-Pierre, mais Jésus lui demande quand même. Imaginez un instant que Bartimée lui réponde « Oh, maître, dis à cette foule de me donner l'aumône, car les temps sont difficiles en ce moment, les gens ne sont pas très généreux envers moi. »
Vous n'y pensez quand même pas, Daniel. Qu'en pensez-vous, Bernard ?
Ah ben, figurez-vous qu'un jour j'ai proposé à une personne de prier pour sa guérison. Et elle m'a répondu « Je veux bien trouver une amélioration, mais pas être entièrement guéri, car je vais perdre ma pension sinon. »
C'est possible ça ?
Ah, véridique, hein, Jean-Pierre. La guérison implique de vivre autrement, et la personne dont je parle ne voulait pas perdre ses avantages financiers dus à sa maladie, pourtant très handicapante. Daniel vient de citer Bartimée, mais je pense aussi à l'infirme qui de la piscine de Bethesda. Dans ce lieu, il y avait beaucoup d'autres malades. Et pour faire court, celui-ci était infirme depuis 38 ans et il n'avait personne pour l'aider. Ah, on sent dans son échange avec Jésus qu'il était aigri, amer même, hein, de sa situation. « Ah, je suis malade depuis si longtemps et personne n'est là pour m'aider. » Bah, lui aussi, Jésus lui pose aussi une question incongrue. « Veux-tu être guéri ?» Alors, sans manquer de respect à Jésus, hein, on aurait pu lui rétorquer « Mais Jésus, tu ne vois pas qu'il souffre de sa situation ?»« Ah, Jésus, si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Hein. » Pourtant, à lui aussi, Jésus demande s'il veut être guéri avant de le faire.
À votre avis, pour quelle raison Jésus pose ces questions alors que les situations semblent évidentes ?
J'ai tendance à croire que Jésus nous demande ce que nous voulons vraiment et attend de nous une réponse claire. Il faut prendre conscience que pour Bartimée ou cet homme infirme de la piscine, leur avenir change du tout au tout. Ils ont été l'objet de miracles et c'est joyeux, mais désormais, au lieu d'attendre de l'aide des autres, ils vont devoir travailler, se prendre en charge eux-mêmes. Alors Jésus en est conscient, je suppose. Que c'est une raison de ces questions. Veux-tu être guéri et es-tu prêt à en assumer les suites ? Nous aurions tendance à dire rapidement que oui, mais comme l'a dit Bernard, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui. Et Jésus ne va pas à l'encontre de notre volonté et de notre liberté. Comme dit, il veut entendre ce que l'on veut vraiment.
Permettez-moi une parenthèse. Puisque nous parlons de guérison miraculeuse, certains prétendent que Jésus ne guérit plus aujourd'hui, que c'était bon pour le temps de Jésus et des apôtres. Vous en pensez quoi, Bernard ?
Je pense que c'est dommage pour ceux qui n'y croient pas, car dans cet état d'esprit, ils n'obtiendront certainement pas une guérison de la part de Jésus en cas de problème de santé. Hein. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. D'ailleurs, Jésus dit à notre Bartimée, va, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Et le texte de préciser, aussitôt, Bartimée retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Jésus affirme que cet aveugle a retrouvé la vue du fait de sa foi en Jésus. Ah, il y a bien d'autres exemples dans les évangiles.
J'entends bien Bernard. Mais c'était Jésus et en son temps.
Oui, Jean-Pierre. Aussi, je me base toujours sur l'Épître aux Hébreux, hein, qui affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, il guérissait hier, il y a 2000 ans, Mais il guérit encore aujourd'hui et probablement encore demain et après-demain. En fait, c'est une question de foi. Alors, je suis pas en train de vous promettre la guérison divine à chaque prière, hein. Je serais un imposteur. Cela dit, j'ai entendu et vu des guérisons et des miracles extraordinaires. Mmh.
Est-ce que vous pourriez nous partager au moins un exemple assez court, hein?
Ouais, alors, je vais faire très court, hein, mais celui qui m'impressionne le plus, c'est le témoignage d'un pasteur avec qui j'ai œuvré parmi les marginaux, les drogués, etc. Il s'appelait Georges Duc, il est décédé maintenant. Mais suite à un accident de la route, il s'est retrouvé paralysé, cloué sur un lit, je pourrais même dire une planche, ce pendant plusieurs années, hein. Et il a été guéri miraculeusement par la prière d'un tzigane passant par là. J'ai réécouté son témoignage il y a peu sur Internet. Avec Georges, on en a vécu des choses.
Mmh. Extraordinaire ce témoignage. On revient dans une poignée de secondes.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous sommes toujours avec Daniel et Bernard de l'église protestante du Colombier dans l'émission Parole protestante. Nous parlons des questions que le Seigneur pose. Daniel, aurez-vous un autre exemple où le Seigneur pose des questions?
La première question que Dieu pose à l'homme, c'est à Adam, après que celui-ci ait péché. Les Écritures nous apprennent que Dieu venait converser régulièrement avec lui. Mais ce soir-là, par peur et probablement honte et remords, Adam s'était caché. Et Dieu dit « Où es-tu, Adam ?» C'est peut-être la même question d'ailleurs qu'il peut poser à un auditeur ou une auditrice. « Où es-tu? Que fais-tu ?» Dieu savait bien où était Adam et ce qu'il avait fait. Au lieu de lui dire « Sors de ta cachette, je t'ai vu !» Dieu le Père préfère poser la question et ce, jusqu'à ce qu'Adam réponde « Je suis là, j'ai eu peur et je me suis caché. » Et à nouveau une question de Dieu « Et pourquoi as-tu peur ?» Puis une autre encore, « As-tu mangé du fruit de l'arbre défendu ?» Vous voyez, Dieu pose des questions très tôt et attend qu'Adam verbalise ses réponses.
C'est intéressant ce que vous dites, mais quelle importance pour nous aujourd'hui?
À l'instar d'Adam, le Seigneur nous pose parfois les mêmes questions. « Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi ?» Et il attend de nous des réponses verbalisées. Je dis bien verbalisées car lui cherche toujours le dialogue. Il veut nous sortir du pétrin dans lequel nous sommes, mais pas avant que nous ne prenions conscience et la mesure de nos actes. Pour Adam, ça concernait le péché, pour Bartimée, la guérison.
D'accord. Auriez-vous d'autres situations où le Seigneur pose des questions, Bernard?
Oui, je pense à Cain. Où es-tu, Abel? Où es-tu Où est ton frère, pardon, Abel? Et Cain de répondre, je n'en sais rien. Est-ce moi qui dois surveiller mon frère? Nous le savons, hein, Cain a tué son frère Abel, étant ainsi le premier assassin de l'histoire de l'humanité. Ah, j'entends parfois des personnes bien pensantes dire, il ne faut jamais demander à un détenu ce qu'il a fait. Je dis ça parce que j'ai quand même vécu 24 ans de ministère en prison. Et moi, j'ai toujours demandé, mais qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'as-tu fait? Non pas pour le culpabiliser, ni l'accuser, encore moins pour le condamner, mais pour cheminer avec lui. Hein. Le but étant qu'il n'y ait plus de victimes et que le détenu ne revienne plus en prison. Hein. Donc pour ce faire, la personne détenue a besoin de prendre conscience de son acte. Et je me rappelle d'un gars qui m'avait dit « Au secours, Bernard, je suis pédophile, je ne sais pas pourquoi, ni comment ne plus l'être. » Voilà, Dieu demande des comptes à Cain. « Où est ton frère? Qu'as-tu fait ?» Et nous avons tout intérêt, tous, hein, autant que nous sommes, de poser un diagnostic sur nos erreurs. Alors heureusement, pour ce détenu, eh bien, on a pu cheminer et il a pu comprendre pourquoi il avait été dans la case pédophile.
D'accord, vous avez raison Bernard, même si ce n'est pas toujours simple à faire. Hein. Daniel, vous avez autre chose qui vous vient spontanément?
Alors je pense à la question que pose l'Éternel au prophète Élie, vous ne connaissez peut-être pas. Mais c'est d'autant plus bizarre que c'est vraiment Dieu qui avait dit à Élie, va au mont Horeb, et une fois qu'Élie y est, il lui pose cette question, que fais-tu ici Élie? Le prophète aurait pu lui répondre, c'est toi qui m'as dit de venir ici. En fait, Dieu avait vu qu'Élie avait voulu se suicider après les menaces de la reine Jézabel. Et j'ai tendance à penser que qu'il était en burn-out après avoir vécu une expérience pourtant incroyable au Mont Carmel. Et l'Éternel lui pose plusieurs fois la même question. Et il fait bien, car Élie répond qu'il est resté lui seul, fidèle à son Dieu, et qu'à cause de ça, sa vie est menacée de mort. Il se plaint. Le Seigneur ne lui répond pas tout à fait comme ça, mais ça lui ressemble. N'importe quoi, Élie. Que fais-tu des 7000 autres personnes qui me sont restées fidèles? Alors dans cet épisode, Dieu montre à son prophète qu'il se trompe et lui ordonne un certain nombre de choses, l'obligeant ainsi à se relever et à se remettre en route.
Ce qu'évoque Daniel me fait aussi penser à un autre prophète qui s'appelle Jonas. Ah, il a été compliqué, hein, Jonas. Alors, on peut pas relater toute son histoire, hein, mais pour faire court, là aussi, Dieu demande d'aller à Ninive, la plus grande ville au monde de l'époque, et de proclamer sa destruction. Ninive est obligé de dire « Dieu va détruire Ninive dans 40 jours ». Mais comme les habitants se repentent, Dieu ne détruit pas la ville. Et Jonas le prit mal, mais alors vraiment très mal, et se fâcha. Il était très mécontent après Dieu, jusqu'à demander lui aussi la mort. Alors l'Éternel lui dit, mais est-ce que tu fais bien de te mettre en colère? Et Jonas lui dit, oui, je fais bien de me mettre en colère, et puis il boude. Alors je paraphrase un peu la conclusion du livre de Jonas, hein, en forme de question. Jonas, comment pourrais-je ne pas avoir pitié de Ninive, dans laquelle il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer entre leur droite et de leur gauche? En fait, le souci de Jonas, c'est qu'il remet en cause l'amour de Dieu pour l'humanité. Jonas, comment peux-tu remettre en question mon amour? Je ne vois pas les autres comme toi tu les vois. J'ai plus d'amour et de compassion pour toi, pourrait dire Dieu.
J'ai envie de dire heureusement, ouais, que le Seigneur aime bien plus que nous. Hein.
Sûr.
L'heure avançant, avez-vous peut-être une dernière question pertinente du Seigneur?
Oui, alors sur ce dernier temps, je parlerai alors de cette question de Dieu au roi Salomon. Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. On aimerait bien entendre une question comme ça. Hein.
Ouais.
C'est très étonnant comme question. Et c'est le Seigneur qui fait le premier pas vers le roi. Qu'est-ce que tu veux, Salomon? J'ai la conviction que le Seigneur nous pose parfois la même question. Et remplaçons le prénom Salomon par le nôtre. Que répondriez-vous au Seigneur? Salomon, pour sa part, a répondu, avec la sagesse qu'on lui connaît, « Accorde-moi un cœur attentif, l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple avec justice, pour discerner le bien du mal. » Et le texte continue par « Cette demande de Salomon plut au Seigneur. »
Plutôt sympa.
Hein. Ah oui, alors peut-être un peu plus que sympa même, Jean-Pierre. Hein, est-ce que le Seigneur peut dire la même chose de nos réponses? Et d'ailleurs, pourquoi cette réponse plut au Seigneur? Il l'explique juste après. « Puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, alors je vais agir conformément à ta parole. » En effet, hein, Salomon n'a pas demandé égoïstement pour lui-même « Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi », comme on le fait nous si souvent, mais plutôt « Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies, aide-moi à être juste vis-à-vis des autres ». Chez moi, en tout cas, ça fait écho à ce que dit le prophète Michée. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voilà ce qu'il demande de tout être humain. Faire ce qui est juste. Aimer agir avec bonté et vivre avec Dieu dans la simplicité ou humblement avec ton Dieu, comme le dit une autre traduction. Pourrions-nous, nous aussi, faire ce type de prière? Aide-moi, Seigneur, au lieu de dire bénis-moi.
Voilà, notre émission s'achève. Merci à tous les deux. Et si je dois retenir deux idées fortes de notre émission, je dirais que le Seigneur nous pose aussi des questions auxquelles il nous faut répondre. Et que lui est toujours enclin au dialogue, au partage, encore faut-il que nous le soyons aussi. Avant de poursuivre cette émission, nous proposons une pause musicale avec le chant « Tu es ma source » de Dan Lutin. Restez à l'écoute, notre émission se poursuit dans quelques instants.
Je te prie, tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Parole protestante sur RCF Anjou.